Oui, ensemble, nous remercions le Seigneur pour sa bonté, pour son amour, pour sa grâce. Et alors, nous sommes vraiment contents pour ce temps de louange, ce temps d'adoration qu'il nous a donné. Nous avons vraiment pu lui faire monter cette louange de bonne odeur. Et merci à chacun d'avoir exprimé aussi ce qu'il y avait dans votre cœur. Le Seigneur se réjouit d'être au milieu de nous. Et en ces instants, nous allons nous pencher pendant quelques minutes dans l'Écriture, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et je serai très court. C'est la seule fois de l'année, donc profitez. Et nous allons lire les deux passages que nous avions lus la dernière fois, puisque nous n'avions pas terminé. Et donc on va lire dans Colossiens, chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, et là les versets 9 et 10, il dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec une joie persévérant et patient. Et alors on reste dans le même livre et on va au chapitre 4. Et là, nous lisons le verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Amen. La dernière fois, nous étions arrêtés dans notre série sur la maturité chrétienne. Nous étions arrêtés sur le thème de la préoccupation suprême du chrétien mature, c'est la volonté de Dieu. Le chrétien mature, le chrétien qui arrive dans cette phase de sa croissance où il est mature, où il a grandi avec le Seigneur, sa plus grande préoccupation à ce chrétien-là, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu dans mon église? La volonté de Dieu dans ma famille? Et on avait dit, si vous vous rappelez, que lorsqu'on rencontre Jésus, chacun d'entre nous, lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nous faisons cette rencontre, elle bouleverse notre vie. Elle bouleverse notre vie. Nous ne sommes plus comme nous étions avant, nous ne sommes plus les mêmes personnes, nous n'avons plus les mêmes valeurs, nous n'avons plus les mêmes normes, nous n'avons plus le même statut, puisque nous avions un statut de rejeté, de mise à l'écart, et nous sommes maintenant entrés dans la maison de Dieu, nous avons une position, assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc il y a un déménagement, disons-le comme ça. Celui qui se convertit, celui qui rencontre Jésus, déménage. Alors évidemment, il ne déménage pas de sa maison, surtout s'il l'a achetée. Son apparence physique ne change pas du tout au tout. Il reste le même. S'il était blond, il reste blond. S'il était brun, il reste brun. Donc concrètement, on ne voit rien. Il n'y a rien qui change. Mais d'un point de vue spirituel, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et notamment dans ce changement que nous vivons, il y a un changement de nos critères d'évaluation. Quand on rencontre Jésus, nos critères d'évaluation changent. Alors qu'avant, mes critères, c'était « ça me fait plaisir, donc ça va ». Maintenant, c'est « ça plaît à Dieu, donc ça va ». Avant, c'était « oui, tout le monde fait comme ça, c'est dans l'air du temps ». Maintenant, c'est « est-ce que Dieu aime ça? Est-ce que Dieu approuve ça ?» Avant, c'était, dans ma famille, on a toujours fait comme ça, on a dit que c'était comme ça, et c'était très bien. Maintenant, c'est, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Un changement de nos critères d'évaluation. Maintenant, notre critère d'évaluation, c'est la volonté de Dieu. Et ça, c'est pour chacun d'entre vous, puisque vous êtes tous des chrétiens matures, n'est-ce pas? puisque vous êtes là. Eh bien, pour chacun d'entre nous, nous changeons notre façon de guider notre vie et maintenant, notre grand critère d'évaluation, c'est la volonté de Dieu. Alors, on avait pas mal déjà parlé de la volonté de Dieu, vous réécouterez le message, mais il faudrait quand même qu'on s'arrête quelques minutes à se poser la question, mais pourquoi la volonté de Dieu est-elle si importante au fond ? Parce qu'on parle de ça comme si c'était un truc évident, mais au fond, pourquoi est-ce que c'est si important de faire la volonté de Dieu ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Pourquoi est-ce que ça a tant de sens, tant de valeur pour nous ? Est-ce que nous devons juste faire la volonté de Dieu pour la faire ? Pour Dieu, ben voilà, je l'ai fait. Est-ce que nous devons la faire par obligation ? Comme étant acharné, on s'acharne sur nous, on nous frappe pour que nous fassions la volonté de Dieu. Est-ce que nous devons juste faire la volonté de Dieu pour donner bonne impression ? Finalement, pourquoi est-ce que c'est si important de faire la volonté de Dieu ? La raison pour laquelle la volonté de Dieu est si importante, c'est parce que la volonté de Dieu est l'expression concrète de son être. La volonté de Dieu est l'expression concrète de qui est Dieu. Au travers de la volonté de Dieu, nous avons accès à la personne de Dieu. Ce n'est pas simplement juste des principes à respecter en se disant « ben oui, la Bible dit que, donc je dois le faire, c'est écrit que, donc je dois le faire ». C'est bien plus que ça, c'est que la volonté de Dieu, elle nous exprime qui est Dieu. Elle nous parle de la nature de Dieu. Elle nous parle des attributs de Dieu, des attributs moraux de Dieu, de ce que Dieu est. Quand Dieu te dit « tu ne mentiras point », ce n'est pas juste pour dire « tu ne peux pas mentir ». C'est parce que la nature de Dieu, c'est la vérité. Comme on l'a chanté, c'est un Dieu de vérité, un Dieu sans injustice, un Dieu dans lequel il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de faux semblant. Il est le Dieu vrai. Et c'est pour ça qu'il nous invite à vivre dans la vérité. Pas juste pour dire, ah oui, ben, à l'église, on a dit qu'il fallait faire la volonté de Dieu, alors moi je le fais parce qu'on ne sait jamais. Non ! Nous faisons la volonté de Dieu parce que, en la faisant, nous nous alignons à la nature de Dieu. Quand Dieu te dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, c'est parce qu'il est le Dieu juste, comme on l'a aussi chanté. Un Dieu de vérité et sans injustice, il est le Dieu juste. Il est le Dieu qui ne peut pas produire l'injustice. Et la Bible nous dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. C'est pour ça que je ne peux pas porter de faux témoignages contre mon prochain. J'irais dire, exemple, je prends une personne au hasard que je n'ai pas choisie, c'est vraiment Jean-Pierre, exemple. J'irais dire devant un tribunal, ben oui, écoutez, j'ai vu Jean-Pierre en train de déposer des immondices sur la place du Ballon. Exemple. Il y a des gens qui font ça. Jean-Pierre, non. Mais il y a des gens qui le font. Mais j'irais dire ça. Je porterai un faux témoignage contre mon prochain. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire ? Parce que Dieu est un Dieu juste, est un Dieu vrai. Et que ça va à l'encontre de sa nature de porter des faux témoignages, de mentir, de travestir la vérité. Quand Dieu nous dit d'exercer l'hospitalité, c'est parce qu'il est lui-même le Dieu qui accueille, le Dieu de bonté, le Dieu qui aime le partage, le Dieu qui répand sa bonté sur les bons et sur les méchants, le Dieu qui aime l'accueil, le partage. Il est le Dieu dont c'est sa nature. L'hospitalité, c'est sa nature, l'accueil des autres, c'est sa nature, le partage, l'échange, la bonté. Dieu n'encourage pas l'égoïsme, il n'encourage pas le rejet, il n'encourage pas l'indifférence, il n'encourage pas le repli sur soi, parce que c'est contre sa nature. C'est contre la nature de Dieu, c'est l'hospitalité. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à être hospitaliers, pour nous aligner à sa nature, à ce qu'il est, au plus profond de lui-même. Quand Dieu nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce n'est pas juste parce que ben oui, c'est écrit, donc je vais le faire comme c'est écrit. C'est parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. C'est sa nature profonde lorsqu'il est écrit que Dieu est amour. Non pas Dieu a de l'amour, non pas Dieu pense à l'amour. Dieu est amour, c'est sa nature. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à vivre dans l'amour. quand Dieu nous invite à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas juste pour avoir une obligation morale qui nous tombe dessus. C'est parce qu'il est lui-même le Dieu qui nous pardonne, le Dieu qui met derrière lui nos péchés, qui passe au-dessus de l'offense, qui fait triompher la miséricorde du jugement, qui fait triompher la grâce de la rigueur. Ainsi donc, nous ne devons pas voir la volonté de Dieu comme étant simplement une charte et devoir signer au fond en disant « ben voilà, je vais le faire parce que j'ai dit que j'allais le faire ». Non, nous accomplissons la volonté de Dieu par amour, parce que la volonté de Dieu nous exprime son être. Quand on veut apprendre à connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? On lui pose des questions. Et on lui pose des questions au travers de sa volonté. Et en comprenant sa volonté, on comprend qui il est. On va demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu aimes le plus manger ? C'est quoi ton plat préféré ? Ça m'indique qui tu es. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans une relation ? Sonia, elle n'aime pas les gens qui sont un peu... qui se prennent un petit peu de haut. C'est vrai, Sonia. Voilà. Mais ça, quand je sais ça de Sonia, j'ai accès à sa personne, à son être, à qui elle est. C'est pas juste une information comme ça. Et plus j'en accumule sur elle, plus je peux dire que je la connais. Et de la même façon, plus j'apprends à connaître la volonté de Dieu, plus je peux dire que je le connais. Je sais qui est Dieu, quelle est sa nature. On va demander à quelqu'un, où est-ce que tu préfères vivre ? À la ville ou à la campagne ? Ça nous indique qui est la personne. À quoi est-ce que tu passes ton temps libre ? Ça nous indique qui tu es. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Sonia, pour lui faire plaisir, je vais lui apporter un gros camion de gouda. Parce qu'elle aime le gouda. C'est vrai, Sonia ? Ben, oui, mais disons-le, un camion rempli de gouda. Ce serait beau, hein, ça. Il faudrait que tu aies de la place pour le ranger. Et ça fond en plus le gouda, donc. pas maintenant, en hiver. Donc la volonté de Dieu nous met en contact avec sa personne, avec son être. Et c'est pour ça que la volonté de Dieu doit être si importante pour nous. Alors en trois points, rapidement, que doit être la volonté de Dieu pour nous ? Pour nous. Premièrement, la volonté de Dieu pour nous doit être la référence pour nos actions et pour notre vie. La référence pour nos actions et pour notre vie. Elle doit devenir la référence sur laquelle nous calquons nos décisions. La référence pour nos décisions. La référence pour nos réactions. La référence pour nos relations. La référence pour la gestion de notre temps. La référence pour nos projets. La volonté de Dieu doit devenir la référence pour ce que nous faisons. 1 Pierre 4, verset 2 dit « Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Vivre selon la volonté de Dieu. Et le mot « selon », ça veut dire « en fonction de ». Vivre selon la volonté de Dieu, c'est vivre en fonction de la volonté de Dieu. Et donc, en réalité, nous pouvons jouir du monde entier, nous pouvons jouir de tout ce qu'il y a dans ce monde. De la nourriture, des vacances, des habits, on peut jouir de tout. Mais selon, en fonction de la volonté de Dieu. Le chrétien a une vie comme tout le monde. Il est fatigué comme tout le monde, il a une voiture comme tout le monde, il paye ses impôts comme tout le monde. Mais il vit sa vie en fonction de la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu devient la référence pour nos actions et pour notre vie. C'est Hébreux 13, 21 qui prie, il dit « qu'il vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté ». Capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Et 1 Jean 2, verset 17, qui est un bel encouragement pour nous, il dit « et le monde passe et sa convoitise aussi ». Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe avec ses convoitises. Tout ce qu'on peut désirer dans ce monde, tout ce qui a de la valeur ici-bas, passera. Sauf celui qui fait la volonté de Dieu, qui lui demeurera éternellement. Tous les aspects de notre vie doivent maintenant dépendre de la volonté de Dieu. La conception que nous avons du travail, la conception que nous avons des choses simples de la vie, de la nourriture, des relations sociales, de l'argent, notre façon de parler, notre façon de nous comporter, notre façon de décider, doit maintenant se faire selon la volonté de Dieu. Selon, c'est une préposition, Ingrid, non ? Un complément de... Je ne sais pas, parce que je n'ai pas été à l'école primaire. Mais en tout cas, c'est un mot à retenir. Selon la volonté de Dieu, en fonction de la volonté de Dieu. Vous lui demanderez après ce que c'est, comme ça vous le saurez. Deuxièmement, la volonté de Dieu doit être la cible de nos prières. La volonté de Dieu doit être la cible de nos prières. Le secret des secrets, de tous les secrets, pour être exaucé, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Toute personne qui prie selon la volonté de Dieu est sûre d'être exaucée. Ça, c'est une assurance de la parole de Dieu. Il est écrit, par exemple, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Donc, la volonté de Dieu doit aussi devenir la cible de nos prières. Lorsque nous prions, nous sommes appelés à prier ce que Dieu veut, à prier selon ce que Dieu veut. Et à plusieurs reprises dans l'Écriture, on voit que les apôtres reprennent les chrétiens parce que justement, ils ne prient pas selon la volonté de Dieu. Dans Jacques 4, verset 3, il est dit par exemple, « Vous demandez, le chrétien qui vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Ça veut dire que c'était des chrétiens qui priaient, mais selon leur volonté. Ils priaient selon leur passion, selon leur cœur mauvais. Et évidemment, Dieu n'exauce pas en fonction de qui prie. Dieu n'exauce pas en fonction du ton de la voix avec laquelle on prie. Dieu n'exauce pas en fonction du nombre de personnes qui prient. Dieu exauce en fonction de sa volonté. Il ne se laisse pas tirer comme un petit chien dans notre volonté, mais il accomplit la sienne. Il accomplit sa volonté. Et donc, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Quand, si ma prière est basée sur mon orgueil ou ma jalousie, par exemple, je suis jaloux, imaginons que je sois jaloux. Ça, c'est une passion mauvaise. Et comme je suis jaloux, je dis, Seigneur, je te demande de faire échouer cette personne. Est-ce que je vais être exaucé ? Vous ne savez pas ? Non, bien sûr, je ne serai pas exaucé parce que ma prière se base sur ma jalousie. Dieu ne va pas accomplir quelque chose pour ma jalousie ou pour mon orgueil. Si je prie, Seigneur, je te prie que dans l'entreprise où je travaille ou que dans l'église où je suis, je sois le plus célèbre et le plus apprécié. Est-ce que Dieu va exaucer ça ? C'est de l'orgueil ! Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas me suivre dans mon orgueil comme un petit toutou et dire « Ah ben, il est orgueilleux, je vais faire comme il me dit. » Non, n'est-ce pas ? Nous sommes appelés à prier selon la volonté de Dieu. Si je prie en disant « Seigneur, bénis-moi, je suis en route pour aller dans un endroit où je vais mentir, où je vais dire du mal des autres, bénis-moi, encourage-moi et bénis cet instant, nous allons médire de tout le monde, bénis-nous. » Est-ce que Dieu va exaucer cette prière ? Non, évidemment. Jean 9, verset 31 nous dit « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Dieu n'exauce point les pécheurs, ça veut dire Dieu n'exauce point ceux qui vivent selon leur passion, qui prient selon leur passion, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. 1 Jean 3, 22 dit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Et enfin, un verset aussi qui nous illustre ça, c'est Jésus qui dit, après la résurrection de Lazare, Jésus dit « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus a dit « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » C'est Jésus qui a dit ça. Pourquoi est-ce que Jésus peut dire qu'il savait que Dieu l'exauçait toujours ? Il faisait toujours la volonté de Dieu. Il était toujours dans la volonté de Dieu. Il priait toujours la volonté de Dieu. Et il avait donc cette assurance d'être exaucé. Parce que Dieu exauce en fonction de sa volonté. Et quand on voit la vie de Jésus, il était proche de Dieu. Il avait une intimité, une connaissance de Dieu. Il passait du temps dans la présence de Dieu. Il connaissait les Écritures. Et c'est à force d'être dans la présence de Dieu, à force de connaître les Écritures, à force d'être auprès de lui, que de plus en plus nous commençons à connaître la volonté de Dieu. Nous commençons à savoir qui est Dieu. Nous commençons à savoir comment je dois prier pour prier selon sa volonté. Parce que nous le connaissons. Quand on demande des choses à des gens, on sait très bien ce qu'on peut demander à qui. Comprenez? Si je veux aller sur la Lune, moi, je demande à Eric. Parce que Eric, si tu lui demandes d'aller sur la Lune, il va dire oui à quelle heure. Il met son short et il est parti. On est parti. Parce que je le connais. Il y en a d'autres, je ne vous demanderai pas d'aller sur la Lune. Hein, parce que vous allez dire oui, mais je ne sais pas, je vais réfléchir, je vais calculer. Non, Eric, il est prêt. À force de connaître quelqu'un, on sait ce qu'on peut lui demander ou pas. Moi, je connais Jean-Pierre. Je sais tout de Jean-Pierre. Donc, je sais bien que quand il est fâché, quand il n'est pas d'accord, il a une petite inclinaison de la tête comme ça. Vous voyez? Oui. Et donc là, je sais qu'il n'est pas d'accord. Et donc, je sais que je dois changer ma façon de faire. Voilà, parce que je le connais. Gino, lui, il a un tout petit rictus, mais c'est vraiment insaisissable. Il faut vraiment être en face de lui. Et alors, aïe, ah non, ça va pas. Parce qu'on connaît les gens. Benoît, lui, il parle, donc vous savez tout de suite ce qu'il pense. Mais vous voyez, à force de connaître quelqu'un, on sait ce qui... On sait très bien que... Si je vous dis, bah oui, j'ai vu Benoît danser à la place de Montigny-le-Tilleul, je vous dis, bah non, c'était pas lui. Parce que, comprenez? Donc à force de connaître quelqu'un, on sait quelle est sa volonté, on sait quel est son plan, on sait... Qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation? Donc nous devons grandir dans notre proximité avec Dieu, dans notre connaissance de la parole de Dieu, et petit à petit, nous allons nous retrouver à de plus en plus savoir que, non, Dieu, dans cette situation, Dieu ne souhaite pas que ça se passe comme ça. Dieu, non, parce que nous connaissons son plan, nous connaissons sa parole, nous connaissons sa vérité. Priez pour être en harmonie, en alignement avec la volonté de Dieu. Ça nous encourage aussi à prier la volonté de Dieu. C'est la meilleure façon de prier. Seigneur, aide-moi à vivre dans la sanctification. C'est sa volonté. Seigneur, je veux être humble comme Christ a été humble. Seigneur, je te prie que notre église devienne une maison de prière. Seigneur, je te demande que notre famille te serve, comme il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Souvent, on appelle ça, dans le jargon, prier la Bible. Donc, prier la Bible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lis un verset et je prie sur le verset que je viens de lire. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, si je lis, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais prendre un texte au hasard. J'en ai pris un au hasard. Oh non, c'est celui-là, j'ai déjà parlé de ça. c'est difficile, hein? Non, mais attendez, je vais tourner de ce côté-là. Dans les épîtres, il y a plus de chance. Hein, donc, voilà, regardez. Procès entre chrétiens. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez ainsi. Voilà, ça c'est un verset de la Bible. Et je peux prier par rapport à ce verset-là. Dis, Seigneur, aide-moi à ne pas être quelqu'un qui commet l'injustice. Un peu être quelqu'un qui dépouille, aide-moi à bien me comporter envers mes frères, aide-moi à être un frère qui bénit, un frère qui encourage. Je prie la Bible, je prie en fonction de la Bible. Non, on n'a pas compris. Je ne vais pas recommencer, écoutez, j'expliquerai la prochaine fois. Bon. Et parfois même, nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu précise pour notre vie, mais alors là, on peut prier en disant, Seigneur, fais concourir toutes choses pour que j'entre dans ta volonté. Fais concourir les circonstances pour que je me retrouve dans ta volonté. Seigneur, ferme les portes qui ne sont pas dans ta volonté. Parfois, on est dans une situation où on a plusieurs choix, comme ça. Et voilà, je dois faire un choix entre ça, ça, ça et ça. Je dis, Seigneur, ferme les portes qui ne sont pas dans ta volonté. Et en voyant que telle porte se ferme, je me rends bien compte que Dieu répond à ma prière. nous devons prier sur la volonté de Dieu. Et alors, dernièrement, la volonté de Dieu doit être l'aspiration de nos cœurs. Elle doit être, un, la référence pour nos actions, deux, la cible de nos prières, et trois, l'aspiration de nos cœurs. C'est ce que nos cœurs doivent désirer. Nos cœurs doivent désirer la volonté de Dieu. Matthieu 6, verset 10, vous connaissez ce verset qui sont les demandes principales de la prière que Jésus nous a enseignées, qui dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça l'aspiration de nos cœurs. Seigneur, mon cœur désire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon cœur désire que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel, dans mon église comme au ciel. Le vœu de nos cœurs doit être la volonté de Dieu. Le psaume 40, verset 8, c'est le psalmiste qui dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Je veux faire, je veux faire ta volonté, aide-moi à faire ta volonté, aide-moi à discerner ta volonté. Psaume 143, verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Voilà comment on prie. « Enseigne-moi, apprends-moi, Seigneur, à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Il y a une chanteuse de la région de Charleroi qui a chanté au Festival de l'Espoir, qui a écrit, qui a fait un chant qui s'appelle « Faire de toi mes délices ». Sur base du verset du psaume 37, verset 4. Et alors, dans ce chant, elle s'appelle Suzy Muntu et elle chantait cette année au Festival de l'Espoir. Et son chant dit « Seigneur, je voudrais faire de toi mes délices. Je voudrais faire de ta personne ma joie. Je voudrais accomplir tes désirs. Je voudrais partager ton avis. Je voudrais toujours être du même avis que toi. Partager tes désirs, être dans ta volonté. » Et alors le chant dit, « Si ce que je demande te déplaît, que cela me déplaise aussi. Je te confie mes désirs, Seigneur, je te confie mes désirs, corrige-les. » Parfois, on a besoin que nos désirs soient corrigés. « Je te confie mes désirs, corrige-les. Tous les jours de ma vie, Seigneur, je désire t'obéir. Tous les jours de ma vie, je veux faire de toi mes délices. Faire de toi mes délices et faire ta volonté. Tous les jours de ma vie, je voudrais faire ta volonté. » Alors en conclusion, pour ce matin, il y a un écrivain anglais qui a écrit un livre sur le bonheur chrétien. C'est un vieux livre, mais qu'ils ont réédité il n'y a pas longtemps. Et alors là-dedans, il explique c'est quoi le bonheur pour un chrétien, si vous voulez. Et il y a plusieurs points, enfin c'est tout un livre, on n'a pas le temps de le lire ici. Et voici ce qu'il dit. Ainsi donc, une quatrième chose que l'on peut dire au sujet du bonheur chrétien, c'est que le chrétien n'est vraiment heureux qu'en faisant la volonté de Dieu. Les chrétiens ne sont pas contraints d'obéir à Dieu, ils le font de bon gré. Lorsqu'ils s'arrêtent pour y réfléchir, ils réalisent que rien ne les rend plus heureux que de se soumettre à la volonté de Dieu. Ils sont satisfaits de laisser Dieu planifier leur avenir, même si ces projets sont très différents de ce qu'ils avaient envisagé. En fait, ils préfèrent ces plans, les plans de Dieu, aux leurs, car ils savent que Dieu sait ce qui est le plus avantageux pour eux, mieux qu'eux-mêmes. Après tout, Dieu comprend mieux les chrétiens qu'ils se comprennent eux-mêmes. Alors de ce passage, retenons une seule phrase. Retenez-la dans votre tête, écrivez-la dans vos cahiers de notes ou dans vos bibles. Ce qui dit, le chrétien n'est vraiment heureux que lorsqu'il fait la volonté de Dieu.